Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, quelles inégalités l'école doit-elle combattre ? Émission en partenariat avec le journal La Croix. La réforme du collège est encore sur les braises, que François Hollande en promet une autre, sans doute aussi passionnelle, pour les prochaines années, celle du lycée. Le chef de l'État était à Orléans ce jeudi pour la rentrée scolaire. Nous devons mieux assurer la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur, a-t-il expliqué, et de fixer cet objectif, 60% d'une classe d'âge titulaire d'une licence dans 10 ans. Alors l'idée d'une massification de la scolarisation, initiée par les lois Guizot puis Ferry au 19e siècle, cette idée ne se dément pas, la politique éducative poursuit, avec un certain succès, le projet de permettre à toujours plus d'élèves d'être en mesure de prolonger leurs études. Si l'on s'en tient aux chiffres bruts, l'égalité en termes d'accès à la scolarité est en progrès constant. Pourtant, le système scolaire français est largement décrié aujourd'hui pour son incapacité à réduire les inégalités sociales, notamment, voire pour son rôle dans le creusement de celles-ci. Alors, il est vrai que l'égalité des chances est au cœur des missions prioritaires de l'éducation nationale, mais n'est-ce pas trop demander à la communauté éducative que de réparer les fractures du monde extérieur ? Quelles inégalités l'école doit-elle combattre ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir François Dubé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'Université de Bordeaux. Vous travaillez notamment sur la question des inégalités à l'école. Vous publiez, alors parmi vos nombreuses publications, mais je vais citer la toute dernière, c'est un ouvrage coécrit avec Pierre Merle, « Réformer le collège » qui vient d'être publié en coédition par les PUF. Et la vie des idées, je précise que vous êtes en duplex à Bordeaux des studios de France Bleu Gironde pour discuter avec vous. François-Xavier Bellamy, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, professeur en classe préparatoire. Vous êtes par ailleurs maire adjoint de Versailles, délégué à l'enseignement. Vous avez publié en 2014 « Les déshérités ou l'urgence de transmettre ». Et puis, troisième personne est avec moi. Ce n'est pas un invité, mais c'est quelqu'un qui va m'accompagner pour discuter avec vous. Il s'agit de Guillaume Goubert, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du journal La Croix. La Croix avec qui nous serons en partenariat chaque premier jeudi du mois cette année pour aborder un des grands thèmes de débat de l'élection présidentielle. Je précise d'ailleurs que... Du coup, l'éducation, la rentrée scolaire et notamment cette question des inégalités fait l'objet de votre événement du jour dans La Croix. Alors, pour démarrer peut-être cette discussion, peut-être est-il intéressant de commencer par les textes et notamment les textes du Code de l'éducation. Et que peut-on lire dans l'article 1 de ce code ? L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves. Il contribue à l'égalité des chances. Est-ce qu'on peut dire déjà, François Dubé, qu'il y a un consensus total autour de cette mission de contribution à l'égalité des chances ?
Oui, c'est un consensus, c'est même un slogan, c'est une idée qu'on n'interroge plus tellement elle est évidente. C'est une croyance, en fait.
Ouais. C'est une croyance, on devrait justement peut-être la réinterroger, cette croyance ?
Ben, on devrait la réinterroger pour savoir, d'une part, quelles sont les promesses que l'on peut tenir, d'autre part, si l'égalité des chances, c'est toute l'égalité. Je veux dire que nous pensons spontanément que l'égalité scolaire, c'est que, indépendamment de l'origine sociale, on accède à toutes les formations. Bon, c'est évident. Mais en même temps, il y a l'égalité de résultats, par exemple. On peut imaginer qu'une école dans laquelle l'écart de performance entre les meilleurs élèves et les plus faibles est une école plus juste qu'une école qui permet à une minorité d'élèves défavorisés d'accéder au sommet. Donc, en réalité, nous nous payons très souvent de mots là-dessus, mais je ne crois pas qu'il y ait véritablement personne pour dire « je suis hostile à l'égalité des chances ».
Voilà. Alors qu'est-ce que vous mettriez derrière cette notion d'égalité des chances, François-Xavier Bellamy ?
Il me semble que la phrase que vous venez de citer, je ne sais pas si on peut la qualifier de croyance, au sens où c'est un indicatif qui traduit un impératif. C'est comme très souvent dans les textes de loi ou les textes réglementaires. Il s'agit d'affirmer que l'école doit servir la lutte contre les inégalités et l'égalité des chances. Et en ce sens, effectivement, il me semble que personne ne peut être en désaccord avec cette idée et cette affirmation. Je crois que ce qui est décisif et peut-être ce qui pêche le plus aujourd'hui dans le rapport que nous avons avec cette question de l'inégalité devant la réussite telle que François Dubel évoquait, c'est précisément la définition que nous donnons de la réussite. Si l'égalité des chances consiste à donner à chaque élève, à chaque enfant, les moyens de s'accomplir pleinement, dans la variété des formes de réussite, alors dans ce cas, effectivement, nous avons toutes les raisons de la rechercher. Si l'égalité réelle consiste au contraire à produire un seul modèle uniforme de réussite, alors dans ce cas, nous sommes effectivement devant une grande difficulté parce que nous risquons de tomber dans le piège d'une coercition, d'une définition d'un modèle trop simple et trop basique de réussite, soit d'un affaiblissement de l'école pour tous afin, comme le disait François Dubé à l'instant, de diminuer l'écart entre les élèves au prix d'une uniformité désespérante.
Puisque la question qu'on pose ce soir, c'est quelles sont les inégalités que l'école doit combattre. Est-ce qu'on pourrait alors peut-être faire une première proposition en disant elle doit toutes les combattre pour ne laisser peut-être vivre qu'une seule de ces inégalités, qui seraient les inégalités de talent, c'est-à-dire qui, à un moment donné, font qu'il y a forcément des individus qui n'ont pas exactement les mêmes compétences dans tous les domaines. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là, par exemple, François Dubé ?
Je pense qu'elle est celle de tout système purement méritocratique et qu'elle a une petite dimension darwinienne, parce que d'abord, c'est complètement impossible d'isoler le talent de ce qui serait le non-talent, de ce qui serait le reste. Au fond, est-ce qu'on mérite son mérite ? C'est une question qu'on peut toujours se poser. Donc, je crois qu'il est évident que les élèves n'ont pas tous les mêmes capacités pour réussir. Je crois qu'il est évident, en même temps, que l'on doit distinguer dans l'école plusieurs moments et plusieurs fonctions. Le moment et la fonction qui consiste plutôt à créer de l'unité, et le moment est la fonction qui permettrait plutôt de créer de la diversité, et donc, pour appeler un chat, des inégalités. La raison pour laquelle l'école française est plus inégalitaire qu'elle devrait l'être, logiquement, qu'elle devrait l'être et en fonction de son organisation, de sa structure centralisée, homogène, etc., et de l'ampleur des inégalités sociales, c'est parce que, d'une certaine façon, nous ne parvenons pas véritablement à hiérarchiser nos objectifs et que cet idéal d'une compétition pure est en réalité celui qui commande le plus profondément le système. D'ailleurs, tout à l'heure, ça a été dit, dès que l'on parle d'égalité des résultats, on nous répond nivellement par le bas, c'est un fantasme qui dure depuis 1850. C'est l'idée, au fond, que l'école doit produire des inégalités. Et la question se poserait plutôt de savoir quelles inégalités sont acceptables et à quel moment des parcours elles doivent se développer.
François-Xavier Bellamy.
Pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, je ne parlerai pas d'inégalité de talent. Je crois que n'importe quel enseignant se hérisse en entendant cette expression. Ce que je crois profondément, c'est qu'il y a une diversité de talents, une pluralité de talents. Et que nous avons certainement, en France en particulier, massivement fauté dans la reconnaissance de cette diversité des talents. Pour la France, pour un Français, pour l'opinion publique, la réussite, chez nous, c'est polytechnique. Et tout le reste est une version dégradée de polytechnique et de normale sup. Et par conséquent, nous ne regardons la réussite qu'à partir de ce modèle uniforme. D'où le fait que, d'ailleurs, la réussite corresponde à des études longues. D'où le fait que la réussite corresponde au modèle universitaire. D'où le fait que le président de la République déclare que lutter contre les inégalités, c'est, après avoir conduit tous les élèves vers le bac, conduire maintenant tous les étudiants vers la licence. Et c'est là que se trouve l'aberration absolue. Parce qu'en réalité, ce modèle-là correspond à une violence. Une violence parce qu'il ne reconnaît pas ce qui peut être la pluralité des talents. Il correspond à une violence en ce sens qu'il veut artificiellement conduire tous les jeunes dans des modèles qui ne leur correspondent pas forcément. Et il correspond, oui, nous sommes bien désolés de devoir le reconnaître, à une forme, je déteste l'expression de nivellement par le bas, mais en tous les cas d'affadissement et d'affaiblissement des exigences liées à ces formes de réussite universitaire, à ces formes de réussite très scolaire, auxquelles nous voudrions de force faire correspondre la totalité des formes de réussite de tous les élèves. Donc je crois que la vraie mission de l'école consiste à servir l'égalité d'ailleurs de chaque élève dans le talent, parce que chaque élève a une égalité de talent. Et j'ai eu la chance comme professeur de philosophie de rencontrer en cours de philosophie des élèves de section technologique qui accomplissaient des formes d'excellence qui m'étaient bien étrangères et dont j'étais bien incapable. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir admirer en eux ces formes de réussite, comme peut-être je pouvais constituer pour eux un apport extérieur qui pouvait leur être utile. Et je crois que c'est ce qu'il y a de merveilleux, justement, et ce qui devrait nous interdire de condamner tous les élèves à des normes sociales stéréotypées de la réussite qui construisent paradoxalement les inégalités.
Question de Guillaume Goubert.
Oui, si on veut combattre les inégalités, faire en sorte qu'elles ne s'accroissent pas, je vous pose la question à l'un et l'autre, par quoi faut-il commencer? Quelle est l'action prioritaire?
François Dubé.
Écoutez, je crois que l'on souffre en France d'une faiblesse de l'école élémentaire par rapport à l'enseignement secondaire. Pour donner des chiffres très rapidement, le lycéen français coûte à peu près 30% de plus que son camarade de l'OCDE, et l'élève de l'école élémentaire français à peu près 20% de moins. Donc, on n'a pas choisi l'école élémentaire. Or, on sait que l'école élémentaire, c'est le moment où se cristallisent, où se révèlent, où se forment des inégalités dont certaines seront difficilement récupérables. Ça, je crois que c'est la première chose. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est de veiller à l'équité du système. Parce que derrière un décor, un système ou une institution relativement homogène, on sait qu'en réalité, les inégalités scolaires sont, les inégalités scolaires injustes, on va dire, sont le produit de l'agrégation de très petites inégalités. La filière, le choix de langue, la classe européenne, le choix des parents, le quartier, etc. Et donc, là, on a un véritable problème. Si on veut créer, non pas une homogénéité, mais une véritable offre égalitaire, il y aura probablement des choix très difficiles à faire. Et ces choix seront d'autant plus difficiles que les catégories sociales qui bénéficient des inégalités scolaires telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas a priori complètement disposées à y renoncer. Donc, il faut quand même que nous regardions là-dessus les choses en face. Je crois deux grands chantiers. Le premier, c'est l'école élémentaire. Et le second, c'est quand même l'équité de l'offre scolaire qui, chaque parent le sait d'ailleurs, est parfaitement injuste.
Mais justement, sur cette question, pour poursuivre un peu avant de redonner la parole à François-Xavier Bellamy, mais sur cette question de l'inéquité, peut-être, disons, de l'offre scolaire, elle commence quand, cette inéquité? C'est pas au moment de l'école élémentaire. On peut dire quand même qu'aujourd'hui, tous les enfants qui sont scolarisés à l'école élémentaire bénéficient à peu près de la même offre. Mais est-ce que, quand vous dites qu'il faut mettre l'accent sur ce niveau-là, est-ce que ça veut dire qu'il faut le mettre le plus vite possible pour... Comment dire, compenser le plus vite possible aussi les inégalités qui existent au sein de la société?
Ils ne bénéficient pas de la même offre. Si vous êtes dans un quartier très défavorisé, en dépit du courage, du mérite et du talent des enseignants, la nature de la population scolaire fait que les élèves ont une dynamique qui les freine énormément. C'est pour ça d'ailleurs que les parents informés choisissent de fuir ces quartiers pour aller vers d'autres. Si vous créez au collège des filières précoces implicites qui permettent de regrouper les enfants, les bons d'un côté, les moins bons de l'autre, vous accentuez les inégalités scolaires. Donc, tous les élèves ne sont pas identiques et égaux, pour parler de cette manière, mais il faut bien apprendre, en tout cas au temps de l'école, durant le temps de l'école élémentaire, à les traiter de manière équitable, à les traiter ensemble. Si vous rentrez dans des processus de séparation implicite, vous creusez les écarts. Et l'idée d'ailleurs qu'on entend de plus en plus de renoncer au collège unique, de dire les formations professionnelles ont leur pleine légitimité, il faut les faire démarrer plus précocement, on sait parfaitement quelles sont les catégories sociales qui iront vers ces formations, on sait parfaitement quelles sont les catégories sociales qui les fuiront, et on sait parfaitement que ceux qui disent ça n'imaginent jamais que leurs enfants iront dans ces formations soi-disant si honorables. Donc, il faut qu'on réfléchisse véritablement à ça et ne pas avoir peur de cette espèce de cette idée selon laquelle si on traite tous les élèves de manière équitable, au fond, la culture, le dynamisme du pays, la formation des élites y perdront.
Alors, je rappelle la question qu'on pose ce soir. Quelles inégalités l'école doit-elle combattre? Est-ce que une partie de la réponse, ça pourrait être François-Xavier Bellamy, déjà, peut-être les inégalités qui sont produites par l'école elle-même, notamment du fait de cette inéquité dans l'offre pédagogique?
En effet, alors entièrement d'accord avec François Dubet sur ce qu'il vient d'évoquer à l'instant. Je crois que l'égalité républicaine, là pour le coup, dont notre école se targue, est pour une très grande partie un mythe, et ceci dès l'enfance. Quand on parle de l'école, souvent on oublie que l'école s'inscrit dans un milieu. Une école, c'est un écosystème. C'est-à-dire que l'école, il y a autour d'elle des familles, des parents, et les parents exercent une attention différente sur l'école de leurs enfants. On voit bien aujourd'hui qu'on a, par exemple, des difficultés majeures dans l'apprentissage et la transmission des savoirs les plus fondamentaux, comme la maîtrise de la langue, la maîtrise de la lecture ou de l'écriture. Aujourd'hui, on a un collégien sur 5, bon an mal an, qui rentre au collège en manquant de maîtrise dans la lecture et dans l'écriture, et qui en sort d'ailleurs avec les mêmes difficultés.
Et c'est l'école qui produit ça ?
L'école ne le produit pas, mais l'école, en tant qu'elle est inscrite à l'intérieur de la société, c'est-à-dire que, évidemment, quand vous êtes dans une école d'un quartier très favorisé, vous avez autour de cette école des parents qui sont très vigilants, qui sont très attentifs, qui vont exercer une attention sur la nature des enseignements qui sont dispensés à l'école, qui vont, au besoin d'ailleurs, et dès le plus jeune âge aujourd'hui, remédier aux difficultés que leurs enfants rencontrent à l'école. Et par conséquent, il y a clairement une iniquité dans l'offre scolaire dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, on sait très bien que ce jeune Français sur 5 qui, toute sa scolarité durant, va traîner avec lui, avec d'ailleurs une grande souffrance, cette manque de maîtrise des savoirs les plus fondamentaux, y compris pour pouvoir se familiariser avec la culture scolaire, eh bien, il n'habite pas, évidemment, de façon équitablement répartie sur le territoire français. Ces jeunes qui sont en difficulté, ils se concentrent dans les lieux qui sont déjà les plus en difficulté, socialement, culturellement, etc. Donc, tout est lié d'une certaine façon. Entièrement d'accord donc avec François Dubet pour dire qu'il faudrait commencer par le primaire. Et je crois que, fondamentalement, s'il y avait, pour répondre à votre question, une chose à faire, paradoxalement, ce serait d'oublier un peu la question des inégalités pour ramener l'école à sa mission fondamentale. Et sa mission, c'est, me semble-t-il, de transmettre les éléments fondamentaux du savoir et de la culture. Tout à l'heure, François Dubet disait, et avec raison, là aussi, je crois, qu'il y a un moment en particulier dans le parcours scolaire pour construire du commun, pour construire une culture commune. Et ce moment-là, c'est celui en particulier de l'école élémentaire, c'est celui aussi du collège. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons bien que l'école va de plus en plus dans le sens de la dispersion, de plus en plus dans le sens de la multiplication, de la diffraction des savoirs qui sont partagés, de plus en plus aussi dans la déconstruction de la transmission. Et ceci, évidemment, produit et engendre, alors là, pour le coup, directement les inégalités scolaires. Je crois que malheureusement, les dernières réformes qui sont en cours y contribueront pour une très large part.
Juste une petite réaction, François Dubet, sur cette dernière proposition de François-Xavier Bellamy, d'oublier un peu les inégalités pour retrouver la question des savoirs fondamentaux.
D'abord, je crois que les réformes successives depuis quelque temps vont plutôt dans le sens des savoirs fondamentaux. Je crois que ça a commencé avec François Fillon, qui n'a pas eu de rupture là-dessus. Mais la polémique politique exige un certain nombre de choses. Je crois qu'on est même assez fortement recentré sur le lire, écrire, compter, ce genre d'affaires. Le problème, c'est qu'on n'est pas efficace. Le problème, c'est qu'on n'est pas très bon. Et qu'on ne sait pas très bien pourquoi. Au fond, pour répondre à cette question, il faut se demander pourquoi des pays qui ne sont pas dans des meilleures situations sociales que la nôtre, qui ne consacrent pas tellement plus d'argent, voire moins d'argent à leur système éducatif, ont des résultats dans l'ensemble meilleurs et moins inégalitaires. Donc, il y a bien à imaginer de faire autre chose, à penser faire autre chose. On ne peut pas éternellement, tous les 4 ans, constater au lendemain des enquêtes PISA que la situation se dégrade en France, que les élèves savent de moins en moins de choses et que les inégalités se creusent, et dire depuis 30 ans, et ça vaut d'ailleurs pour les ministres de droite, ce que je mets dans cette affaire, depuis 30 ans, de dire que toutes les réformes sont des catastrophes. On est à la fois dans le constat d'une école qui est inégalitaire et fonctionne mal, et dans l'idée que d'une certaine façon, dès qu'on change quelque chose, ça sera pire. Donc, on est devant une sorte de comédie ou de tragédie nationale qui devient extrêmement gênante. Et d'ailleurs, les gens en tirent les conséquences. La plupart de ceux qui peuvent échapper au système, soit en choisissant leur établissement, soit en payant des cours privés, soit en choisissant l'enseignement supérieur privé, etc., le font. Parce que la confiance dans le système se dégrade très fortement.
Guillaume Goubert.
François-Xavier Bellamy, vous disiez tout à l'heure, vous parliez des inégalités dès le plus jeune âge. Une des idées qui sont portées actuellement dans le débat, notamment je pense par l'association ATD Quart Monde, qui serait de généraliser l'enseignement dès 2 ans. Est-ce que ça vous paraît de ce point de vue une idée juste ?
Alors, c'est une piste, mais je crois que c'est une piste qui reste marginale. à l'égard de l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Et je voudrais revenir brièvement sur ce qu'on disait à l'instant. Aujourd'hui, à 2 ou 3 ans, c'est pas l'âge de toute façon où se constitue la transmission des savoirs les plus fondamentaux. Aujourd'hui, on a clairement un vrai problème, par exemple, avec l'apprentissage de la lecture. Et je rejoins François Dubet pour dire que il y a quelque chose de très étonnant dans une situation où nous savons très bien que, alors que notre investissement du point de vue économique est majeur dans la direction de l'école, nous savons très bien que nos méthodes ne fonctionnent pas. Comment se fait-il que nous ne soyons pas capables d'avoir un débat correct et sain et simple sur la question, par exemple, de l'enseignement de la lecture dans notre pays? Monsieur Dubet, c'est vous, pardonnez-moi, mais qui parlez de politique. Je n'ai pas parlé de politique et je crois que quand je dis que l'école aujourd'hui et que les réformes qui sont en cours vont aggraver les inégalités, j'inclus moi aussi les réformes qui ont été effectuées par les ministres de droite. Et pardonnez-moi, mais c'est un sophisme assez catastrophique que de dire que parce qu'on s'oppose à des réformes qui vont effectivement, je crois, dans le mauvais sens, on s'oppose à toute réforme. Au contraire, il est évident qu'il faudrait que l'école se transforme, il est évident qu'il faudrait qu'elle change, mais il faudrait qu'elle change pour se reconcentrer sur l'essentiel. Et c'est là que la question de la scolarisation à 2 ou 3 ans est finalement périphérique, à côté du défi que nous rencontrons, par exemple, dans la question de la transmission des savoirs les plus fondamentaux. Alors, je ne sais pas comment vous voyez que les réformes actuelles vont dans le sens de la concentration vers ces savoirs les plus fondamentaux. Moi, j'ai du mal à comprendre comment, dans une situation où un jeune Français sur 5 est en situation d'illettrisme à 18 ans ou de quasi-illettrisme, j'ai du mal à comprendre comment on peut transformer les programmes scolaires pour que l'objectif numéro un, qui était la maîtrise de la langue française, devienne la maîtrise des langages avec le code informatique, avec les langages du corps. Tout ceci me paraît précisément synonyme de cette dispersion et de cette diffraction qui fait que, fondamentalement, encore une fois de plus, une fois encore, dans les collèges, dans les établissements de centre-ville, dans les établissements privés, on continuera évidemment à concentrer tous les efforts vers la maîtrise des fondamentaux, là où, partout ailleurs, les élèves les plus en difficulté se verront condamnés à subir des activités, pour une très grande part d'entre elles, totalement dénuées de sens, ou en tous les cas très éloignées des priorités et des urgences qui pourtant les concernaient le plus directement, et qui, évidemment, s'en frottent les mains, c'est les officines privées qui voient leur chiffre d'affaires exploser et qui vont le voir, et ce sera un symptôme très simple et très rapide de la situation de ces réformes au bout d'une seule année, qui verront encore une fois leur chiffre d'affaires augmenter.
François Dubesco, moi, on ne peut pas constater un progrès entre, malgré tout, des personnes qui ont des avis divergents sur ce qu'il faudrait faire pour l'école, mais qui est celui du constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'au moins, il y a un constat qui est très, très largement partagé sur le fait que le système scolaire français est inégalitaire et qu'il faut bien, justement, essayer de réfléchir pour le changer.
Non, mais je trouve que nous sommes dans une situation très, très étrange, parce qu'il y a, un accord sur le constat. Ça aura été le rôle historique, au moins, de PISA. Le PISA fait qu'on ne discute plus véritablement du bilan. Ensuite,
c'est déjà pas si mal. C'est-à-dire, quand on partage un constat, on peut travailler et réfléchir.
Je vous concède que c'est pas si mal, que ça a pris 20 ans, mais qu'on y est arrivé. En revanche, dès que l'on est dans des histoires, dans des problèmes de changement et de réforme, on voit une sorte de dramaturgie nationale se reconstituer. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Quoi qu'on pense de la réforme du collège qui a été proposée et qui se met en place. Moi, j'en pense plutôt du bien, mais je suis suffisamment rare pour le dire. Mais quand on voit... Quand on voit l'espèce de folie qui s'emparerait de l'opinion publique, la civilisation était menacée, le latin ne s'en remettrait plus, les enfants prenaient le pouvoir, et que tout ça s'est fait sur la totalité de l'échiquier politique. Carrément, tout le monde a eu un instant de panique. On voit bien que l'on a un rapport à l'école qui est quand même étrange. Et je voudrais rappeler que les pays qui ont aujourd'hui les bons résultats dans PISA sont les pays qui ont réformé leur système scolaire, qui ont décidé de former leurs enseignants. Et pas de les former en leur disant, quand vous êtes à la 4e année d'enseignement, vous pourriez imaginer éventuellement de devenir enseignant. Qui les ont formés en les faisant rentrer dans une formation professionnelle, qui leur ont appris un métier. Donc, tout ça, ce sont des choses, au fond, sur lesquelles je vais parler, j'utilisais un mot désagréable, les experts, pour parler comme ça, quelle que soit leur sensibilité, sont à peu près d'accord. Mais nous sommes comme paralysés devant la capacité d'agir, comme paralysés dès qu'il faut changer les choses. Toucher le programme devient un sacrilège, même si la plupart des enseignants savent que le programme est irréaliste pour 90% des élèves. Mais c'est une affaire d'ambition et de dignité. Donc, quand on raisonne comme ça, on a quand même du mal à s'en sortir. Alors, je vous concède que c'est un
progrès d'être au moins d'accord sur l'état du malade.
Guillaume Goubert.
François-Xavier Bellamy, dans un article publié dans le Figaro au mois de juin, vous avez porté des critiques très sévères sur l'enseignement catholique, et en l'accusant, je force le trait, mais pas beaucoup, de soutenir la réforme du collège parce qu'elle allait affaiblir le secteur public et ainsi favoriser ses propres affaires. Mais est-ce qu'on peut pas voir les choses autrement? C'est-à-dire le fait que l'enseignement catholique, l'enseignement privé, par sa propre organisation, est à même de tirer un bénéfice de la réforme du collège. Et que si le secteur public était organisé d'une autre manière, il pourrait aussi en tirer un bénéfice, pour les élèves, j'entends.
Alors, d'abord, je n'ai pas voulu dire que l'enseignement catholique l'avait soutenu pour en tirer un bénéfice, mais qu'il l'avait soutenu et que maintenant, il allait en tirer un bénéfice. De fait, et c'est un constat tout simple, la plupart des enseignements qui ont été, c'est vrai, et nous sommes obligés, là encore, l'honnêteté nous conduit à le dire, de le constater, la plupart des enseignements qui sont purement et simplement supprimés ou quasiment supprimés de l'enseignement public, comme la suppression des classes bilingues dans beaucoup d'académies, d'ailleurs de façon profondément inégalitaire, et là c'est très frappant de voir comme ces réformes très concrètement vont accentuer les inégalités, puisque comme vous le savez peut-être, la quasi-totalité des classes bilingues est maintenue à Paris, alors que dans beaucoup d'académies de province, elles sont quasiment totalement supprimées. Et donc là, pour le coup, on voit l'offre scolaire qui devient quasiment explicitement inégalitaire dans l'enseignement public. L'enseignement privé aura la faculté de conserver, par exemple, ses classes bilingues, mais en les proposant hors contrat, c'est-à-dire en plus de l'enseignement dispensé dans le cadre du financement public, l'enseignement du latin et du grec, l'enseignement d'un certain nombre d'options qui disparaissaient avec la réforme du collège vont être désormais conservés. Et beaucoup d'établissements privés, et c'est ceci qui m'a fait réagir, beaucoup d'établissements privés en faisaient, dès la fin de l'année scolaire dernière, un argument commercial pour recruter des élèves. Et souvent, évidemment, d'ailleurs, les meilleurs élèves soigneusement sélectionnés dans leurs établissements. Et là, il y a quelque chose qui est profondément scandaleux et qui heurte profondément, précisément, cet idéal d'égalité républicaine qui est au cœur, dans la diversité des formes d'éducation qui est parfaitement légitime et nécessaire, dans la liberté d'enseignement qui est une nécessité absolue en démocratie. Malgré tout, il y a quelque chose de profondément inégalitaire qui est scandaleux. Et ce qui est certain, c'est que nous allons voir encore s'accentuer à la faveur de ces réformes, et il ne faut pas être un grand devin pour le dire, nous allons voir s'accentuer ce système à plusieurs vitesses qui déjà aujourd'hui prospère dans notre pays. Il faut savoir que sur les 100 meilleurs collèges évalués par les enquêtes publiques, 90 sont de l'enseignement privé. Donc il y a bien une vraie question qui nous est posée aujourd'hui.
Je vous repose ma question. Est-ce que avec une organisation, pour faire simple, une organisation plus souple de l'éducation nationale, de l'école publique, est-ce qu'elle ne pourrait pas tirer un meilleur bénéfice des réformes telles qu'elles ont été proposées récemment?
Je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié à l'organisation, mais votre question est très intéressante. Un syndicat d'inspecteurs d'académie a écrit une lettre à la ministre en faisant un certain nombre d'objections contre, par exemple, le système à l'encontre du système des enseignements pratiques interdisciplinaires qui vont être proposés. Ce système ressemble, ou en tous les cas, il correspond à la vision pédagogique qui était à l'œuvre aussi, par exemple, dans le développement des travaux pratiques encadrés, des TPE qui ont été développés au lycée depuis déjà quelques années. Et le syndicat des inspecteurs d'académie disait que, fondamentalement, ces dispositifs pédagogiques bénéficient à ceux qui sont les plus avancés dans leur performance scolaire et au contraire, ils contribuent à exclure ceux qui sont les plus en difficulté. Parce que vous pouvez vraiment tirer le meilleur d'un dispositif pédagogique comme les TPE quand vous êtes déjà bien au clair sur tous les savoirs fondamentaux. Je ne crois pas qu'il s'agisse donc d'une question d'organisation, mais c'est vrai pour le coup que quand les enseignants du privé, quand les chefs d'établissement du privé disent « mais nous les EPI ça nous plaît et on va pouvoir en tirer profit avec nos élèves », on peut leur répondre légitimement « mais vous avez tout à fait raison, vous avez les meilleurs élèves puisque vous les sélectionnez ». Et c'est très évident aujourd'hui, sauf encore une fois à se voiler la face, que l'enseignement privé, à cause de sa faculté de recrutement, bénéficie d'élèves qui sont plus en situation de facilité scolaire que le public. Et par conséquent, loin des questions d'organisation, il y a une vraie question d'inégalité, justement, au sens où nous sommes devant un système qui risque d'enrichir les plus riches et d'appauvrir les plus pauvres.
François Dubé.
Donc je partage votre jugement sur le caractère très choquant d'une réforme qui n'a pas lieu à Paris, qui est la ville la plus riche de France et qui pourra continuer à donner deux fois plus d'argent aux enfants qui feront des classes européennes, ce qui est quand même extrêmement choquant. Et je suis étonné que vous les défendiez, puisque ça consiste à dire, quand vous êtes un enfant plutôt favorisé, on va vous payer des études qui sont... La collectivité va vous payer des études qui seront plus chères et nettement plus rentables que pour les autres. Je ferme la parenthèse. Je crois que... Une des raisons pour lesquelles l'enseignement catholique peut être favorable à cette réforme, c'est aussi une raison d'organisation. C'est que les établissements privés sous contrat ont depuis longtemps une forme d'autonomie pédagogique
qui fait que bénéficier de 20% du temps pour faire des EPI, ça participe de leur logique. Et le problème des établissements publics qui se mettent en grande situation de faiblesse là-dessus, c'est que d'une certaine façon, ce travail reste aléatoire. Ce travail, certains le veulent, certains ne le veulent pas. Certains établissements le font, d'autres ne le font pas. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est profondément inégalitaire. Au fond, si l'enseignement privé marche parfois mieux, pourquoi ne pas faire que l'enseignement public prenne dans le privé ce qui marche bien? Et ce qui marche bien, c'est quand même des équipes d'enseignement relativement homogènes parce qu'elles sont recrutées de cette façon, etc.
Puisqu'on est sur la question de l'enseignement privé, François Dubé, je voudrais avoir votre avis sur le rôle que peut jouer l'existence de l'enseignement privé dans les inégalités territoriales. Est-ce que vous considérez que le fait qu'il y ait cette présence et que donc les parents d'élèves aient le choix libre finalement de mettre, alors ça demande un certain nombre de moyens financiers selon les établissements, mais en tout cas le choix d'inscrire leurs enfants dans ce type d'établissement, ça conduit l'école publique à être finalement en incapacité de réduire ce qui peut être ce que peuvent être les phénomènes par exemple de ségrégation urbaine.
Absolument, je veux dire que l'enseignement privé accentue l'inégalité de l'offre scolaire, mais je voudrais rappeler qu'une grande partie de l'enseignement public fonctionne de la même manière. Car quand on regarde les choix des parents, c'est un, fuir le collège du quartier pour un collège public, et deux, s'il n'y a pas de place dans ce collège public, aller vers le privé. Donc, c'est pas aussi clair que ça. Je veux dire, il est évident que l'enseignement privé bénéficie de conditions qui créent des inégalités, mais le fonctionnement au sein même de l'enseignement public participe d'un mécanisme comparable. Je crois que de ce point de vue, on pourrait imaginer, par exemple, de demander à l'enseignement privé, d'exiger de l'enseignement privé, et au-delà d'ailleurs de tous les établissements, qu'ils aient des quotas de recrutement, qu'ils ne fassent pas leur marché. Que les parents choisissent leur établissement, il semble aujourd'hui très difficile de s'y opposer. Mais en revanche, que les établissements payés par l'impôt et la collectivité fassent le marché des bons élèves, qu'ils soient publics ou privés, ça a quelque chose d'extrêmement choquant. Donc on pourrait imaginer d'avoir une combinaison au fond entre une certaine liberté de choix des parents, mais des fortes contraintes de choix du côté des établissements qui n'ont en réalité de privé que le nom, parce que l'essentiel de leur financement est public.
C'est d'ailleurs une question qu'on avait posée il y a quelques mois de cela aux représentants de l'enseignement privé. Je crois que c'est Pascal Ballan. Je me tourne vers Guillaume.
Pascal Ballan.
Pascal Ballan, voilà.
Ballan.
Ah, Ballan, pardonnez-moi. Qui était assez sceptique, on va dire, sur cette idée-là. François-Xavier Bellamy, vous vouliez réagir?
Mais bien sûr, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire fondamentalement, je ne crois pas que le fait qu'il existe un enseignement privé augmente les inégalités. Les inégalités, vous l'avez dit, la formule était parfaitement juste. L'enseignement privé bénéficie de ce contexte qui fait qu'il recueille. Et là, pour le coup, on ne peut difficilement généraliser sur le choix des parents parce que les situations sont très variées géographiquement et vous le savez très bien. L'enseignement privé, en tous les cas, c'est certain, bénéficie de la faillite de l'enseignement public parce qu'il peut recueillir de façon plus certaine des élèves plus favorisés ou plus aisés scolairement que leurs parents envoient là pour échapper à la dégradation de l'enseignement public. Le vrai problème n'est pas la réussite de l'enseignement privé. Et d'ailleurs, la générosité des enseignants qui s'y manifestent, elle est tout à fait estimable et louable. Le vrai problème, c'est la difficulté dans laquelle se trouve l'enseignement public à bien des égards. Et par conséquent, ce serait absurde de vouloir augmenter par la coercition, l'indistinction entre les deux systèmes. La vraie question qui se pose, c'est comment faire pour que demain, il ne soit pas signe d'échec d'envoyer ses enfants dans un collège public? C'est ça la seule question qui compte. Et vous pourrez contraindre les parents par tous les moyens que vous voudrez, parce que c'est bien de la contrainte qui pèse sur les parents qu'il s'agit ainsi, par tous les quotas que vous voudrez, vous pourrez déguiser la faillite comme vous voudrez. À la fin, elle ne sera jamais masquée. La seule chose qui compte, c'est donc de la contrarier, au contraire, en faisant réussir l'enseignement public aussi bien que l'enseignement privé. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y parvienne pas.
ABCDD. Comme déconstruire les stéréotypes sur les filles et les garçons. Cela passe par exemple par des exercices sur le vêtement.
Ben les hommes, ils peuvent se mettre noirs et aussi les filles, par exemple.
Non, les garçons, ils sont noirs avec les rouges.
Non, mais les filles aussi, elles peuvent se mettre en noir parce que...
Ah non, oui. C'est rouge, c'est
Dès la maternelle, les schémas sont donc bien ancrés. Et cela a des conséquences importantes en termes d'égalité professionnelle, des conséquences que le gouvernement entend combattre.
Les filles réussissent bien à l'école, mais nous avons très peu de filles qui s'autorisent à devenir ingénieurs. Et nous avons une crise du recrutement des ingénieurs en France.
Et donc, ne pas, encore une fois, se freiner dès le plus jeune âge avec des représentations et des stéréotypes qui ne sont plus adaptés à ce que le droit offre aujourd'hui aux individus.
Voilà, extrait d'un reportage de BFM TV qui datait de janvier 2014 avec ces fameux ABCD de l'égalité. Alors, dès qu'on parle d'égalité, d'inégalité à l'école, on savait, en préparant cette émission avec Guillaume Goubert, qu'il y avait énormément de thèmes à aborder. Qu'on n'irait pas au bout de tous, mais peut-être pour terminer l'émission, François Dubé, les inégalités, alors les inégalités hommes-femmes, par exemple, ou en tout cas les discriminations, est-ce que on pourrait dire que ça fait aussi partie de la mission de l'école que de lutter contre ces inégalités ? Ou bien est-ce qu'on ne demande pas finalement énormément de choses à l'école aujourd'hui, au risque peut-être de la décentrer de sa mission première qui est celle d'enseigner, de transmettre ?
Non, je suis convaincu que ça fait partie du rôle de l'école de dire aux garçons et aux filles que tout est possible. Ça ne suppose pas nécessairement de déconstruire le genre, comme on dit, mais ça suppose de dire aux filles que tous les métiers leur sont ouverts et aux garçons que tous les métiers, y compris les métiers de filles, leur sont ouverts. Ça, je crois que l'école peut le faire et doit le faire. Mais je voudrais rappeler que le paradoxe qu'il y a entre la réussite scolaire supérieure des filles et leur intégration professionnelle moins bonne, c'est peut-être pas seulement l'école qui l'explique, et je voudrais rappeler que c'est quand même le marché du travail. Si les femmes choisissent des métiers qui sont en général compatibles avec ce qu'elles pensent être un rôle familial, c'est pas exactement la responsabilité de l'école. Donc,
peut-être d'ailleurs, François Dubé, que la bonne question qu'on aurait dû poser ce soir, ça aurait plutôt été quelles inégalités faut-il combattre pour faire réussir l'école ? C'est-à-dire les inégalités qui sont à l'extérieur de l'école.
Non, mais les inégalités qui sont à l'extérieur de l'école, il faut les combattre sans doute, elles sont fondamentales, probablement plus que les inégalités scolaires. Mais n'imaginons pas que l'école puisse affaiblir les inégalités sociales. Je crois que l'école doit être une école juste, une école égalitaire, une école dans laquelle les élèves apprennent et s'épanouissent, etc. Mais sortons du rêve d'une école capable de changer la société. Enfin, ça a quelque chose d'écrasant pour l'école.
Et c'est peut-être même un rêve un peu effrayant, d'ailleurs, François-Xavier Bellamy.
Je voudrais le rappeler, quand même. Je veux dire, l'école, elle est faite pour rendre les gens intelligents, solidaires, créatifs, etc. L'idée que l'on va agir directement sur la structure sociale à partir de l'école, je crois que c'est une chimère très largement.
Moi, il me semble qu'une société se constitue dans son école qui contribue à très largement à en préparer l'avenir. Et ce que je pense profondément, c'est que nous sommes dans une grande confusion entre la mission de l'école et les bénéfices qu'on peut en attendre indirectement. C'est-à-dire que il me semble que l'école peut, par exemple, pour reprendre l'exemple que vous évoquiez à l'instant, peut lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles, et d'ailleurs de façon beaucoup plus immédiate encore, parce que ça me paraît un peu dérisoire de s'attaquer à la couleur des vêtements, mais peut s'attaquer vraiment à la question de la très grande violence qui règne dans beaucoup d'établissements scolaires entre les garçons et les filles, et qui est très réelle. Mais elle peut le faire à condition de remplir sa mission fondamentale qui est, encore une fois, de transmettre la connaissance et la culture. Et la vérité, c'est que sans cette mission fondamentale, rien d'autre n'est possible. Et avec elle, en revanche, tout devient possible. Ou en tous les cas, il me semble que l'école constitue ce pari des Lumières, ce pari républicain, ce pari au fond très, très heureux, européen, très occidental, qui consiste à croire que la culture contribue à humaniser l'homme, à le rendre plus humain, à le rendre plus sensible à ceux qui sont autour de lui, à le rendre plus créatif, à le rendre plus disponible à la variété des talents qu'il possède. Mais tout ceci n'est possible que par la transmission de la culture. Et par conséquent, si on savait, et c'est dans ce sens, tout à l'heure je disais qu'il fallait peut-être oublier un peu les inégalités, non pas pour les faire disparaître de notre horizon, mais pour les maintenir comme précisément un horizon indirect de cette mission fondamentale que nous avons à remplir collectivement.
Bon, Guillaume Goubert, avec le journal La Croix, on pourrait se retrouver tous les premiers jeudis du mois avec un thème autour de l'école. On est Absolument. Sûr qu'on aurait énormément de choses à dire, mais ce ne sera pas tout à fait le cas. Donc, on va se retrouver le mois prochain, premier jeudi d'octobre. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça tombe, mais pour évoquer là encore un des grands sujets de débat de cette élection présidentielle. Débat passionnant, comme nous l'ont démontré nos deux invités aujourd'hui, François-Xavier Bellamy et François Dubé. Merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger pendant un an. L'équipe du Grain que je remercie, c'est Mathilde Barbier, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer et Zulte Sicard. Mission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Anthony Thomasson. Demain, nouveau rendez-vous, nous inaugurerons le club des idées du Grain. Petit suspense encore jusqu'à demain, mais il y a quelques voix que vous connaissez bien sur cette chaîne que vous allez retrouver.